Avec vous Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Et le football pour commencer la 25e journée de Ligue 1 qui va se terminer ce soir dans un chaudron où le leader parisien est attendu de pied ferme.
À Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, très belle affiche chez les Parisiens qui n'ont perdu qu'une seule fois, vous le savez, Yves, en championnat, c'était à Lyon, doivent tourner la page de la Ligue des Champions après le succès à Manchester United. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Jérôme.
Vous êtes déjà installé au stade Geoffroy Guichard. Les Parisiens sont toujours privés de joueurs importants, mais ils n'ont pas l'intention de baisser la garde ce soir.
6 joueurs, Neymar, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Eric Choupo-Moting, malade, Marco Verratti, soulagé en raison d'une cheville douloureuse, et Adrien Rabiot toujours écarté. Effectivement, un effectif parisien amoindri, mais Thomas Tuchel a déjà prévenu, il faut continuer à gagner, entretenir cette dynamique. Aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, voire en Coupe de France bien sûr, c'est tout le programme des Parisiens. Un mois à 8 matchs, il faut continuer à gagner, notamment ici du côté du stade Geoffroy Guichard. C'est un défi pour les Parisiens. Souvenez-vous, la saison passée, ils avaient été contraints en match nul dans les tout dernières minutes de jeu. C'était même un Stéphanois qui avait égalisé sur un but contre son camp, signé Mathieu Debuchy.
Rodolphe, Saint-Etienne, de son côté, n'a pas trop le choix. Les Verts doivent faire chuter le leader pour se rapprocher du podium.
Exactement Jérôme, surtout depuis que l'Olympique de Marseille se remet à gagner et lui a ravi la fameuse 4e place synonyme de Coupe d'Europe la saison prochaine. Surtout depuis que Reims se remet à gagner également, et voilà, ça presse derrière, il y a du monde. Montpellier bien sûr, on pense également au Stade Rennais. Il faut se remettre à gagner pour continuer à regarder vers le haut, c'est en tout cas le souhait des hommes de Jean-Louis Gasset.
Merci beaucoup Rodolphe Montagnier depuis le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne pour ce dernier match de la 25e journée qui démarrera à 21h. Alors derrière les intouchables parisiens, Lille a mis le pied sur le frein cet après-midi. Les nordistes, deuxième au classement, ont concédé le nul 0-0 face à Montpellier. Et ce n'est pas une bonne opération, François Launay.
Fin de série pour Lille. Après 5 victoires d'affilée en championnat, le club nordiste a été tenu en échec 0-0 cet après-midi à domicile par Montpellier. Le deuxième de Ligue 1 n'a jamais réussi à trouver la faille dans une défense montpelliéraine imperméable. Pourtant, les Lillois ont dominé les débats et se sont créés les meilleures occasions, à l'image de cette reprise de Nicolas Pépé, passé juste à côté des buts montpelliérains après seulement 2 minutes de jeu. Mais au final, les vraies opportunités auront été plutôt rares chez des Lillois parfaitement bloqués par la deuxième meilleure défense du championnat. La libération a pourtant failli venir à la 65e minute, mais la belle frappe enroulée de Nicolas Pépé a touché le poteau droit de Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain. Malgré une pression insistante en fin de match, le LOSC a fini par se casser les dents sur le mur héraulté. Un petit coup d'arrêt pour le club nordiste qui reste malgré tout deuxième de Ligue 1, mais qui voit Lyon revenir à 4 points derrière lui.
François Launay depuis Lille pour France Inter. Et puis ce match se déroulait d'ailleurs sous les yeux de José Mourinho, l'entraîneur portugais viré de Manchester United en décembre dernier, qui était dans le Nord pour superviser des joueurs du LOSC. Les autres rencontres de l'après-midi, il n'y a pas eu de but non plus entre Caen et Strasbourg. Bordeaux s'est imposé contre Toulouse 2-1. Et puis Reims a dominé Rennes 2-0. Un mot de foot espagnol avec la défaite surprise du Real Madrid sur sa pelouse 2-1 contre Rayron. Du coup, les coéquipiers de Karim Benzema descendent à la 3e place au classement à 9 longueurs du leader et rival, le FC Barcelone.
En rugby, c'est l'info de ce dimanche. La star néo-zélandaise Dan Carter, de retour en France.
Pour une pige de quelques mois au Racing 92, un club pour lequel il a déjà joué pendant 3 saisons. Il avait remporté le titre en top 14 en 2016 et qu'il a quitté il y a 9 mois pour rejoindre le Japon où là aussi il a gagné le championnat il y a quelques jours. À bientôt 37 ans, bien c'est un nouveau défi pour le double champion du monde avec les All Blacks. Il arrivera en France le mois prochain et selon le président du Racing 92, il pourrait jouer son premier match contre Bordeaux-Bègles début mars.
Le Racing 92 qui jouait gros cet après-midi face à Toulouse.
Et les Franciliens ont chuté sur leur pelouse synthétique de l'Arena à Nanterre dans un match fou. Toulouse s'impose 34-29, 4 essais inscrits de chaque côté. Les Toulousains qui reprennent la tête du top 14 devant Clermont-Antoine Martin.
Imperturbable Toulousain, 106 de leurs internationaux, le leader du top 14 tient son rang à l'Arena. Les hommes d'Hugo Mola ont dominé des Racingmen trop imprécis qui ont commis beaucoup trop d'erreurs, notamment dans les 22 derniers mètres toulousains, pour prétendre à plus dans cette rencontre. Malgré un rapproché à la fin du match, impulsé par les remplaçants parisiens, l'écart était déjà trop grand à rattraper. Le Racing Métro reste en dehors des places qualificatives, 8e du top 14. Toulouse reprend lui son fauteuil de leader au profit de Clermont. On reverra ces deux équipes ici même fin mars pour le quart de finale de Coupe d'Europe. La revanche donc pour des Racing même battus. Troisième défaite de la saison à domicile pour les Ciels et Blancs. Victoire de Toulouse 34-29 face au Racing Métro.
Et ce quart de finale de Coupe d'Europe, ce sera donc avec Dan Carter sous le maillot Ciel et Blanc du Racing. Et
puis à la mi-journée, pigiste.
Il sera donc pigiste. On connaît bien dans notre corporation également ce terme. Et puis à la mi-journée, La Rochelle a repris la troisième place au classement après sa victoire bonifiée à Grenoble 28-21. Grenoble est barragiste. Dans cette 16e journée, d'ailleurs, il y a eu 5 victoires à l'extérieur sur 7 matchs. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu.
Eh oui. En ski, il a la plus mauvaise des places pour Alexis Pinturault dans le slalom, dernière épreuve des championnats du monde.
Le Français qui espérait une troisième médaille sur ses mondiaux à Åre en Suède termine 4e au pied du podium derrière un trio autrichien emmené par Marcel Hirscher, impérial sur les deux manches et qui remporte son 3e titre dans cette discipline. Pinturault avait pourtant réalisé le 2e meilleur temps de la première manche avant de commettre une petite bourde sur la 2e, mais pas de quoi gâcher totalement son plaisir sur la ligne d'arrivée.
Fier de ce que j'ai fait et déçu finalement d'être au pied du podium. Ouais. Fier parce que j'ai fait 3 courses et 3 courses finalement où je suis tout le temps à la bagarre pour être pour la médaille d'or, pour me battre pour la médaille d'or. Donc ça, fier vis-à-vis de ça. Après, déception étant donné qu'il a manqué pas grand-chose, ça me fait faire cette faute et derrière, avant le plat, donc ça coûte cher. Et après, automatiquement, je finis en plus à 15 centièmes du podium. Donc voilà, c'est comme ça. Après, de toute façon, il fallait jouer et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets.
En revanche, c'est une déception pour Clément Noël, dont on vous avait parlé ce matin dans la matinale de France Inter. Qui avait brillé cette saison sur les pistes de Wengen et Kitzbühel. Il ne finit que 7e de ce slalom. Malgré tout, le bilan tricolore est plutôt bon sur ces mondiaux avec 3 médailles. L'argent sur le Super G pour Johan Claret et l'or de Pinturault en combiné qui a rajouté le bronze sur le géant. Pinturault qui s'impose comme le patron du ski français selon le directeur technique national Fabien Saguez.
Il a vraiment franchi un cap, il était déjà très polyvalent, très toute discipline. Maintenant qu'il est vraiment en concurrence directe avec les meilleurs en slalom, ça renforce encore son potentiel en termes de polyvalence. Donc oui, effectivement, c'est le vrai leader de cette équipe.
Le DTN Fabien Saguez au micro de Bruno Cuaz pour France Inter. Et puis les pistes enneigées de Suède, toujours pour la 2e étape du championnat du monde de rallye. Et c'est l'Estonien Ott Tsanak qui remporte l'étape et qui prend du coup la tête au classement général, détrônant Sébastien Ogier qui termine seulement 29e.
Enfin, un titre pour Gaël, mon fils. C'est du tennis, bien sûr. Le Français s'est imposé à Rotterdam.
Cela faisait un an, Yves, qu'il courait après une victoire en finale. C'est donc fait victoire en 3-7 contre le Suisse Stan Wawrinka, 6-3-1, 6-6-2. C'est le 8e titre de sa carrière. Gaël, mon fils.
On a fait un bon travail avec le coach pour l'instant. On a eu des objectifs qui sont réalisés là, sur ce tournoi-là, sur certains objectifs. Maintenant, il faut toujours continuer à travailler. On espère avoir d'autres occasions pour gagner d'autres titres.
La saison de Formule 1, c'est dans un mois, mais dès demain, les écuries vont démarrer leur séance d'essai sur le circuit de Barcelone. C'est une tradition, ce choix de la Catalogne et son climat tempéré pour tester les nouvelles monoplaces. Et on aura un œil attentif sur Renault, la marque française, qui a de grosses ambitions cette saison. Elle veut rivaliser avec les Cador, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et elle a engagé Cecilia Arbona, le pilote australien Daniel Ricciardo.
29 ans, 29 podiums, 7 victoires en Grand Prix. Depuis l'école primaire et ses débuts en karting, Daniel Ricciardo roule en s'amusant. Surnommé Banana Dan, le pilote est effectivement connu pour son large sourire et sa bonne humeur. Et c'est sur ce garçon jovial, en fin de contrat chez Red Bull, que Renault a choisi de miser. Daniel Ricciardo.
Rejoindre cette écurie pour lui donner une nouvelle dimension, ça signifie beaucoup pour moi. L'idéal serait d'intégrer le top 3. Et ce qui me rend très heureux, c'est d'avoir l'opportunité de travailler avec Alain Prost, d'écouter ses conseils. C'est une icône et je suis vraiment content de me perfectionner auprès de Monsieur Prost.
La marque française, qui s'est classée 4e au palmarès des constructeurs en 2018, entend poursuivre sa trajectoire ascendante. Cyril Abitboul, directeur général de Renault F1 Team.
En Formule 1, depuis 41 ans qu'on en fait, on n'a jamais réussi pleinement à avoir la place que l'on devrait avoir. Alors, on est français dans un univers quand même très britannique. On est un constructeur généraliste dans un univers de premium. Les gens nous voient toujours avec un mélange de respect, de méfiance, mais quand même aussi un peu de hauteur et d'irrévérence.
Renault a investi plus de 50 millions d'euros pour rénover son usine anglaise Denstone. C'est sur ce site, en pleine campagne, qu'a été conçu son dernier bolide, la RS19, qui fera ses premiers tours de piste demain à Barcelone.
Allez Yves, si vous appréciez les images spectaculaires de bateaux volants sur des plans d'eau magnifiques, bien il faut suivre une nouvelle compétition de voile créée cette année.
Elle s'appelle SailGP. La première étape s'est terminée ce week-end en Australie, dans le cadre idyllique de la baie de Sydney.
C'est une sorte de ligue mondiale qui se court sur de petits bateaux volants, les mêmes que ceux de la dernière Coupe de l'Amérique aux Bermudes, mais améliorés pour battre des records de vitesse. Alors, 6 équipes nationales ont été créées, dont une française avec comme leader Billy Besson, un bien connu dans le milieu de la voile olympique. Billy Besson, heureux de naviguer sur ces Formule 1 des mers.
Les calculs qui ont été faits avant, en Coupe de l'Amérique, étaient de 42 nœuds à l'époque. Et là, normalement, ils ont prévu 55 nœuds, quasi 100 km/h. Et c'est le but annoncé. Et je pense que ça risque d'être un spectacle assez hallucinant. En termes de moyenne, par exemple, pour préparer une manœuvre, à l'époque, les bateaux mettaient 15 à 17 secondes. Là, en 3 secondes, on peut décider de virer, quoi. On peut décider de faire une manœuvre. Donc tout va beaucoup plus vite, donc il faut essayer d'être à la hauteur du bateau maintenant. On est vraiment protégé un peu partout, casqué, on a des bouteilles d'oxygène avec nous au cas où si le bateau se retourne. On est accroché au bateau aussi, on a un lien qui permet de pas tomber à l'eau. Tout a été mis en œuvre avec l'organisation en tout cas pour essayer de prévenir au maximum des accidents. Cette notion de sécurité a été vraiment prise en compte très professionnellement.
Et voilà, les Français ont terminé 5e de cette étape australienne. La finale de ce circuit aura lieu à Marseille. Vous pourrez y aller en septembre.
C'était le journal des sports de Jérôme Val.